Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, nous allons lire au chapitre 2. Épître aux Hébreux, chapitre 2. Je vous invite à vous mettre debout pour cette lecture qui sera courte parce que nous allons lire les quatre premiers versets de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a eu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous guider par ton Esprit Saint dans ta parole et de nous donner des cœurs soumis pour mettre en pratique ta parole, à la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Les versets que nous avons lus sont liés, très intimement liés au chapitre 1, puisque ça commence par « c'est pourquoi ». Et donc, après avoir exposé dans le chapitre 1 la supériorité, c'est une exposition un peu théologique de la supériorité de Jésus-Christ sur les anges, c'est tout ce dont traite le chapitre 1, si vous le lisez. Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous livre là ici, à partir du chapitre 2, la première de cinq avertissements. Le premier de cinq avertissements qu'on pourrait qualifier d'avertissement solennel. Et si on regarde la structure des versets que nous avons lus, on trouve d'abord au verset 1 une exhortation, ici, hein, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc c'est une exhortation que nous avons ici. Puis vient une explication, ou on pourrait dire une argumentation qui est là pour soutenir ce qui est dit au verset 1, donc c'est le verset 2, et puis le verset, deuxième partie du verset 3 et le verset 4. Et puis au beau milieu de tout cela, on a un avertissement des plus sérieux, si j'ose dire. Il est dit au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et c'est ça, le thème de ces quatre versets, comment échapper en négligeant un si grand salut? C'est une question qu'on appelle question rhétorique. Hein. L'auteur ne cherche pas à avoir une réponse à cette question. La réponse, elle est dans la question elle-même. Comment échapperons-nous à un si grand salut? En négligeant un si grand salut, la réponse c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucune possibilité d'échapper en négligeant un si grand salut. Et l'exhortation de notre texte s'adresse à ceux qui ont entendu des choses. Donc c'est des juifs devenus chrétiens ici, il s'adresse à des chrétiens ici, et donc ceux qui ont entendu des choses concernant l'évangile. Et donc l'exhortation, on pourrait dire qu'elle est aussi pour nous, hein, qui avons entendu des choses, qui entendons des choses. On pourrait se poser la question, combien de fois on a déjà entendu la prédication de l'Évangile. Si vous êtes là chaque dimanche, ça fait 52. Si vous êtes là depuis 10 ans, 52 fois 10, ça fait 520, au moins. Si vous êtes là depuis 20 ans, on multiplie. Alors pour certains, c'est plus que 1000, comptez les semaines, donc plus que 2000, 3000, hein, 5000. C'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. Combien de fois avons-nous déjà lu la parole de Dieu, hein? Plusieurs fois, peut-être. Donc c'est autant de fois que l'on peut ajouter ici. Et le texte dit ici, pose ici la question à ceux qui ont entendu des choses. Le verset 1 dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elles. Et puis il dit ici au verset 3, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Donc il est question pour ceux qui entendent et qui ont entendu de négliger ce qu'ils ont entendu. C'est la question qui est devant nous ce matin. Donc c'est une interpellation, je crois, une grande interpellation pour nous en tant qu'auditeurs, en tant que personnes qui ont entendu les choses, les paroles de salut, les paroles de l'Évangile. Et cette interpellation, je crois, elle trouve parfaitement sa place en cette période de l'année où on fait encore des vœux, où on prend des résolutions ici. Et donc, c'est une parole pertinente pour nous. Et donc là, le titre du message ce matin, c'est « Il n'y a aucune échappatoire pour ceux qui négligent l'Évangile entendu ». Il n'y a aucune échappatoire pour ceux qui négligent l'Évangile entendu. La question, c'était, comment échapperons-nous si nous négligeons? La réponse, c'est qu'il n'y a aucune échappatoire. On pourrait donc fermer la Bible et puis partir, puisqu'on a déjà la réponse à la question. Mais on ne va pas le faire, parce que la Bible ne le fait pas. Et il y a des explications derrière. Je relis le texte, c'est... Pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur d'être emportés loin d'elles, il dit. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment, dit le texte, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Un salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, puis qui a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu ayant appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par des dons du Saint-Esprit qu'il a distribués selon sa volonté. Alors nous voulons considérer ce matin trois choses. D'abord ce grand salut. Deuxièmement, considérer le danger de la dérive imperceptible mais fatale, et puis enfin la sécurité qu'il y a dans un attachement diligent à la vérité. C'est ce que nous voyons, je crois, ici dans ce passage. Alors, premièrement, ici, un si grand salut ne peut être, je veux le dire comme ça, impunément négligé. Un si grand salut ne peut être impunément négligé. L'avertissement du verset 3 est sous forme, on l'a dit, de questions rhétoriques. Et la réponse, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire pour ceux qui négligent un si grand salut. La négligence, ce n'est pas quelque chose qui est... comment je vais dire ça? Ce n'est pas... rejeter forcément, hein. Il n'est pas dit pour ceux qui rejettent, hein. Il n'a pas dit pour ceux qui méprisent, hein. Mais simplement pour ceux qui négligent, qui font juste pas attention, hein. Qui ne s'inquiètent pas. C'est pas qu'ils sont contre, c'est pas qu'on est fondamentalement opposé, mais simplement que l'on ne tient pas, compte ici. Et donc ici, ce texte nous montre qu'un si grand salut ne peut être impunément négligé. Un si grand salut, pourquoi est-ce que ce salut est si grand? Bien, c'est un grand salut parce qu'il délivre, en fait, d'une terrible condition, de la plus terrible condition qu'un homme puisse connaître. Le verset, c'est « Comment échapperons-nous ? » Ça veut dire qu'il y a quelque chose là à échapper. Il y a un danger terrible, une condition terrible à laquelle il faut échapper et à laquelle on n'échappera pas si on néglige un si grand salut. Et cette chose à laquelle il faut échapper, le verset ne le dit pas ici, mais c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Un peu plus loin, dans, je crois que c'est au chapitre 3, où il est question, au verset 11, où il dit « Ils n'ont pas connu mes voies, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Et la Bible parle, partout par ailleurs, de cette colère de Dieu à laquelle on doit échapper. Et l'apôtre Paul même parle de la conversion à Dieu comme le fait d'échapper et d'être délivré de la colère de Dieu. Il dit par exemple à 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vos idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai, pour servir, pardon, le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Voilà ce que l'on attend quand on est au Seigneur, c'est d'être préservé de la colère à venir. Et Romains 5, 9 dit « À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Donc c'est un grand salut parce qu'il délivre de la colère de Dieu. Il permet d'échapper à la colère de Dieu qui se révèle, dit l'Épître aux Romains, contre toute impiété des hommes qui maintiennent la vérité captive. Hébreux 10, verset 27 dit « Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu, qui dévorera les rebelles. » Voilà ce dont ce grand salut nous préserve. Donc, un salut, un grand salut, car il délivre la plus terrible condition qu'un homme puisse connaître. Un si grand salut, car il règle aussi définitivement la question du péché. Et c'est ce qu'on voit ici dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux oppose le sacrifice unique de Christ au sacrifice multiple de l'Ancien Testament. Et il dit qu'on répétait encore ces sacrifices, et ces sacrifices rappelaient le souvenir des péchés, et qu'ils n'ôtaient pas le péché, ici. Et en Hébreux, chapitre 10 encore, et au verset 11 et 12, on lit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service, offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, en parlant de Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient sous son marchepied. » Il a réglé une fois pour toutes la question du péché. En 1 Jean 3, 5, on trouve ceci: Jésus apparu pour ôter le péché. C'est un grand salut parce que c'est un salut qui règle définitivement la question du péché. Mais c'est aussi un grand salut, on le voit dans le texte que nous avons lu dans Hébreux 2, à cause de la personne même du messager. Le chapitre 1 faisait déjà une comparaison entre Jésus et les anges, et le chapitre 2, là, les versets le font aussi. Regardez au verset 2, il dit « Car si la parole annoncée par des anges » et dans le Nouveau Testament, on voit que il est dit que la loi a été promulguée par des anges. Si vous lisez Galates chapitre 3, verset 19, il est dit « La loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Et Étienne, lorsqu'il raconte l'histoire du peuple d'Israël dans Actes chapitre 7, il parle de la loi reçue par un commandement d'ange. Et peut-être que les gens à qui l'auteur écrivait ici, eh bien, mettaient les anges à une place assez particulière, et à une place élevée. Et c'est peut-être pour cela que tout ce texte arrive en montrant la supériorité de Jésus sur les anges. Mais ici, regardez ce que fait ici l'auteur. Il dit, car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et toute transgression, toute désobéissance a reçu une juste rétribution, donc il compare d'une part ce qui a été annoncé par les anges, ces messagers, au moyen de ces messagers-là, et au verset, au milieu du verset 3, il dit, le salut annoncé d'abord par qui ? Par le Seigneur. Donc il met en opposition d'un côté la loi apportée par les anges et puis de l'autre côté le salut qui est annoncé par le Seigneur. Pour montrer la grandeur de ce salut, il montre la grandeur du messager. Et c'est ce qu'il avait déjà fait dans le premier chapitre au verset 1 quand il est écrit, regardez Hébreux 1, il dit « Après avoir autrefois, il y a plusieurs reprises, parler à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier sur toutes choses. » Et puis il ajoute, « Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés et s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Donc il présente le messager. C'est-à-dire, l'évangile n'est pas venu par des anges, il est venu par le Fils de Dieu lui-même. Et même au chapitre 2, encore au verset 14, regardez ce qui est écrit, Hébreux 2, 14, il dit « Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang, il y a également participé. » Il dit que l'évangile est venu par Dieu lui-même qui s'est incarné. Le messager de l'évangile, c'est Dieu lui-même. Il dit, et c'est pour cela que c'est un si grand salut. C'était déjà quelque chose d'avoir les anges, d'avoir Moïse, mais c'est encore bien plus ici que de saisir que Dieu lui-même s'est incarné, que Jésus est présenté ici comme celui qui a d'abord annoncé l'évangile. Autrement dit, la personne du messager fait la grandeur aussi du salut. Et je rajouterai aussi que c'est un très grand, un si grand salut en vertu de sa crédibilité. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici? Il dit que la parole qui a été annoncée par les anges, c'est-à-dire la loi qui a été donnée par les anges, s'est montrée vraie. D'autres traductions disent « s'est montrée vraie hein, », a montré sa vigueur. Cette parole annoncée par les anges a été ferme. Donc il y a une certitude sur cette parole. Elle a été prouvée vraie. Et comment elle a été prouvée vraie? Eh bien, à la fois dans ses promesses, mais particulièrement dans ses menaces. Parce qu'il dit ici que toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste punition. Quand la loi avait dit, quand tu fais ceci, tu auras cela, eh bien, ça s'est accompli. Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Le diable a beau dire, non, tu ne mourras pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée dans le monde. Mais on peut voir ici que quand des anges ont dit à la femme de Lot aussi, hein, tu t'en vas et tu ne te retournes pas en arrière. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée en arrière. Et il y a eu une rétribution. Et on pourrait multiplier plein d'exemples comme cela dans l'Ancien Testament où on voit que chaque transgression a reçu une juste rétribution. Chaque fois que la loi a été dans Deutéronome, hein, il dit clairement, la loi a été transgressée et désobéie, là, le châtiment est tombé. Alors, l'auteur ici dit, si la loi promulguée par des anges s'est montrée vraie dans sa crédibilité, et il dit, ne croyez pas que l'évangile sera autrement. Il en sera de même. Il dit, si vous négligez, eh bien, vous n'échapperez pas non plus. Si vous négligez l'Évangile, vous n'échapperez pas non plus. Il dit que la crédibilité de la loi, ici, montre qu'il y a aussi une crédibilité dans l'Évangile. Et que là où il fallait aller jusqu'à la désobéissance de la loi pour être puni, il ne suffit ici qu'une négligence pour ne pas échapper au jugement de Dieu. Une négligence dans l'Évangile. Et donc l'auteur utilise ce qu'on appelle ici une argumentation a fortiori. C'est-à-dire, il dit que si ceci qui est moindre est vrai, alors combien plus cela qui est supérieur sera aussi vrai. Si la négligence volontaire de la loi a entraîné une punition, combien plus la négligence de l'Évangile apporté par le Seigneur apportera aussi, entraînera aussi une punition. Et il emploie cette manière d'expliquer les choses plusieurs fois dans cette épître. Je vais vous lire juste une, regardez au chapitre 10 et au verset 28. Il dit « Celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde. » Celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. Hébreux chapitre 10, verset 28. Verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce ?» Est-ce qu'il dit ici ? Il dit « Si la désobéissance à la loi de Moïse entraînait une mort, il dit, sans miséricorde, combien plus sera puni toute négligence concernant la loi de Dieu. Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'agneau, qui aura outragé l'Esprit de grâce. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour savoir ce qui sera accompli pour toute négligence aux paroles que nous entendons. Je rappelle que ce texte s'adresse à nous. Ce que nous faisons avec ce que nous entendons de l'Évangile du salut. Ici. Le salut est grand parce qu'il est fidèle dans ses promesses et dans ses menaces, il est crédible. Et on ne peut pas impunément le négliger. Et puis, j'ajouterai aussi que c'est un grand salut, parce que le Tout-Puissant lui-même, Dieu lui-même, a attesté la véracité des témoignages par des prodiges. Le verset 4 le dit très clairement, il dit « Dieu appuyant leur témoignage, le témoignage de ceux qui ont entendu, des apôtres, qui ont écrit tout ce que nous pouvons lire, il dit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes et des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Et donc il montre ici que c'est un grand salut parce que Dieu lui-même est impliqué et est venu et a manifesté de manière surnaturelle, il a opéré des signes pour attester du témoignage qui a été apporté par Jésus lui-même. Et par les apôtres, il a confirmé l'authenticité de ce qu'il disait. On trouve ça dans Actes chapitre 2, verset 22. Écoutez, il dit « Hommes israélites », l'apôtre Pierre prêche à ce moment-là à la Pentecôte et il dit « Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Donc il dit que Dieu a attesté du témoignage de Jésus-Christ en accomplissant des miracles, des prodiges. L'apôtre Paul lui-même parle de son apostolat en 2 Corinthiens 12, 12, et il dit ceci, il dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une patience à toute épreuve », et puis il ajoute « aussi par des signes, des prodiges et des miracles ». Il dit « ce sont les preuves, Dieu a attesté de la véracité de ce que Paul disait en accomplissant à travers lui des miracles ». Et la même chose s'est produite aussi pour Jésus. En passant, je profite pour signaler que les prodiges n'avaient pas pour but d'élever les messagers, de montrer combien ils sont importants, comme on peut entendre peut-être encore de nos jours, hein, dans certains milieux où les miracles sont toujours mis en avant. Les miracles étaient donnés pour attester de la véracité de ce qui était dit, la parole de Dieu, pour dire ça c'est la parole de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu étant complète, on n'a pas besoin forcément de miracles. Jésus, sa parole a été attestée par les miracles. Les apôtres, leurs paroles ont été attestées par des miracles. Dieu est intervenu pour dire ça, c'est le salut, ça, c'est le grand salut. Ici, ce n'était pas pour élever les hommes, c'était pour attester, pour confirmer la validité du message qui était prêché. Donc un si grand salut, je le redis, c'est mon premier point, ne peut être impunément négligé. Parce qu'il délivre de la colère, il règle définitivement la question du péché. Parce que le messager lui-même, c'est Dieu, en ce salut. Parce que Dieu lui-même accomplit aussi des signes pour attester la véracité de ce message. Et puis parce que l'Évangile est crédible dans ses promesses et aussi dans ses menaces. Une deuxième chose que je voudrais souligner dans ce passage aussi, c'est qu'on doit considérer, premièrement, qu'on ne peut pas négliger impunément ce si grand salut. C'est un grand salut, c'est une première chose que l'auteur dit ici. Mais une deuxième chose pour nous aussi, en sous-entendu, c'est que la vie que l'on... notre vie de tous les jours, eh bien, c'est un océan, on pourrait dire ça comme ça, de courants divers qui pourraient nous amener à la dérive spirituelle. Le verset 1 dit... C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être, quoi ? Éloignés, emportés, loin d'elles. Et le texte nous laisse ici entendre que on n'échappe pas à la dérive fatale si on néglige les paroles que nous avons entendues, les paroles de l'Évangile. Il met devant nos yeux le danger d'une dérive, on pourrait dire ici, imperceptible, mais fatale. D'une part, il y a les choses que nous avons entendues, et puis d'autre part, il y a le risque d'être emporté loin des choses que nous avons entendues. Ici. Et emporté loin ici peut être traduit par glisser au loin. Quelque chose qui échappe, des mains parce qu'on n'a pas tenu fermement. Okay. Mais l'idée, c'est aussi celle d'un bateau qui n'est pas amarré au port et puis qui, tout doucement est transporté par le courant. Ceux qui sont déjà allés à la plage, à Bigné, on met les serviettes là sur le bord de la plage et puis après on va dans l'eau et puis on discute avec les amis. Et puis on nage, on se laisse flotter, on ne fait pas attention, et puis on ressort de l'eau, et on ne trouve plus les serviettes, où est-ce qu'elles sont, ni les tongs. On se dit que c'est bizarre. Et puis on regarde, et puis finalement, elles sont là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas quelqu'un qui a déplacé les tongs, c'est vraiment le courant, tout doucement, imperceptiblement, nous a transportés. D'accord? On a été transportés, on n'a pas fait attention. D'accord? On n'a pas gardé les yeux sur... le point fixe, et puis on a dérivé. Et c'est ça que l'auteur dit ici. Il dit que si on néglige les paroles que nous avons entendues, que nous entendons, l'évangile, les prédications, tout l'enseignement que l'on entend, si on est négligent à propos de ces choses, eh bien on sera comme un bateau qui n'est pas amarré au port et puis qui va tout doucement s'éloigner vers le large. On va s'éloigner de la fermeté, de la vérité. Et ça sera quelque chose qui sera imperceptible. On ne va pas le sentir, mais finalement, son effet sera désastreux. On comprend donc ici qu'il y a un danger qui est toujours présent, des forces dans la vie qui sont toujours présentes, d'accord, et qui tirent ça et là pour nous éloigner des paroles que nous avons entendues. Et en fait, la vie tout entière est comme un océan avec ses courants qui sont là, prêts à nous faire dériver imperceptiblement. Pas besoin de faire quelque chose pour dériver. Il suffit de ne rien faire. Il suffit de négliger. Et on dérive à coup sûr. C'est ce que dit ce texte. Et c'est l'avertissement que l'auteur donne aux Hébreux. Attention, vous êtes sur le point de dériver. Vous vous êtes tourné vers l'évangile. Et là, vous voulez revenir au judaïsme. C'était ça qui se passait ici. Il dit, vous risquez de dériver si vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu. Et quels sont ces courants de dérive? Eh bien, pour eux ici, c'était les habitudes de la vie passée, la religion passée, le judaïsme. Ils étaient tentés par un retour à ce qu'ils avaient laissé. Certainement, il y avait de la souffrance, il y avait, on le lit dans l'Épître aux Hébreux, ils subissaient de la pression, peut-être de la part des autres. Et c'est tellement plus facile de revenir à ce qu'on était. Au moins, on aura la tranquillité d'esprit, on aura la paix. Et parfois, donc, les habitudes de la vie passée sont un courant, d'accord, qui risque de nous faire dériver. Parfois, c'est la familiarité même avec l'évangile. N'oubliez pas que l'auteur parle à ceux qui ont entendu. C'est pas des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, c'est des gens qui ont entendu parler des choses. Et il dit, vous risquez d'être emportés loin d'elle. On est tellement familier avec qu'on peut négliger au point d'être transporté, emporté loin. On dit souvent que le plus grand pourcentage d'accidents se fait autour de la maison. Pourquoi? Parce que ouais, c'est un lieu commun, c'est un lieu habituel, on connaît, c'est familier. On n'a pas besoin de faire attention, on connaît chaque détail, on sait le voisin où est-ce qu'il met sa poubelle, etc. On connaît tout. Et on peut rouler, et c'est là qu'on fait le plus souvent des accidents. Parce que ça nous est familier et on baisse la garde. Et il arrive que on fasse la même chose avec l'évangile. On a tellement entendu qu'on est familier. On écoute ça avec légèreté, négligence. Vous est-il jamais arrivé d'essayer d'encourager quelqu'un, ou peut-être quelqu'un a essayé de vous encourager, et puis vous dites, oh, je connais ce verset, ça fait... Moi, j'ai fait la classe des petits, la classe des moyens, la classe des grands, les ados, les pré-ados, les jeunes adultes, etc. Et tout ça, je connais ça par cœur. C'est pas, tu n'as rien à m'apprendre là-dessus. Je connais tout ça. On ne fait pas exactement comme ça, j'exagère un peu, mais on est familier avec ça. Des gens disent, mais pourquoi c'est pas, j'ai pas besoin d'entendre un verset, je les connais déjà, j'ai besoin d'autre chose. Et on est emporté par la familiarité que l'on a avec l'Écriture. On ne fait pas attention. Et cette familiarité est comme un courant qui nous emmène. Parfois, ce sont nos propres opinions que nous avons. Oui, la Bible dit ça, mais moi, je pense que... Je pense qu'il y a la volonté idéale de Dieu. Et puis, je pense qu'il y a la volonté... où Dieu s'accommode un petit peu de notre situation parce qu'il sait bien qu'on ne peut pas faire des choses. Et puis ça devient notre théologie. Et puis on est emporté par ce courant-là, tout doucement. Parce qu'on n'apprend plus à considérer la parole de Dieu telle qu'elle est, mais on l'apprend avec ces lunettes nouvelles que l'on a, de notre propre opinion. Et cela nous emporte aussi loin de Dieu. le courant des amitiés et des associations, parfois, que l'on a, hein, chrétiens dans le monde, ça, c'est quelque chose qui nous emporte aussi. On fait des petites concessions pour pouvoir être reçu par telle personne, ou voilà, je désire me marier, et puis il n'y a pas de chrétien autour de moi digne de ce nom, et puis le Seigneur me montre quelqu'un qui est tellement gentil, mais qui n'est pas chrétien, mais cette personne est tellement gentille, tellement bien, pas contre l'évangile du tout. Et on se dit, bon, c'est vrai que la Bible dit ceci, mais il y a peut-être... Et après, voilà, association, on baisse la garde, on fait une petite concession ici, une petite concession là-bas. Et tout doucement, on dérive, et on dérive, et on dérive. Les camarades, les associations. Quelqu'un m'a dit une fois, moi, dans le monde, je trouve que les amis du monde, ils sont plus intéressants que les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils sont... Hein. Et donc, on a des amis dans le monde. Et pour être avec eux, il faut faire des concessions. Parce qu'eux, ils n'en font pas, hein, dans l'autre sens. Hein. Il faut faire des concessions. Et on dérive. Et on dérive. Imperceptiblement, mais sûrement. Et puis, je pourrais citer toutes les occupations en tout genre que l'on peut avoir, le souci, le sport, je ne sais pas moi, les sorties, tout un tas de choses. Les réseaux sociaux, TikTok, Internet, YouTube, ça prend du temps tout ça. Ça prend du temps. Et c'est comme un courant qui nous fait dériver. On est d'accord ? Tout doucement, tout doucement. Et ne croyez pas que je dis ça que pour vous, je le vois pour moi-même. On s'achète un nouvel appareil. Quel temps on passe là-dessus pour pouvoir découvrir telle fonctionnalité ici et telle fonctionnalité là-bas. Et il faut que je sache ça. Il y a des choses qui ne vont même pas nous servir peut-être après, mais rien que le fait de savoir qu'il y a ça, on est... Ouh, hein. Et puis on passe du temps et du temps et du temps à voir où on peut faire ça. On peut glisser par là, monter par là. Et ça fait ci si on appuie là, ça fait ça si on appuie ici. Et puis pendant ce temps, on est dans la dérive parce qu'on néglige l'essentiel. Les choses que nous avons entendues, elles sont négligées. Et on est dans le courant en train de dériver, sans nous en rendre compte. Vous savez comment savoir si vous dérivez? Est-ce que vous ressentez le courant qui tente de vous entraîner? Si vous ne le ressentez pas, c'est que vous dérivez. Si vous ne ressentez pas qu'il faut une lutte pour aller contre ça, c'est que vous n'êtes pas accroché. Un bateau qui a la dérive, il part tout seul. Mais un bateau qui est amarré au port, d'accord, la corde se tend, le bateau, la coque, elle est secouée par les vagues, mais le bateau est là. Ça se voit qu'il y a des forces qui s'exercent dessus, mais il est toujours à la même place. Mais s'il n'est pas amarré solidement au port, il part tout seul. Et nous, c'est pareil. Si on n'est pas amarré à la vérité de la parole de Dieu, si on ne sent pas que c'est difficile, qu'il faut se lever le matin, qu'il faut lire, qu'il faut poser ça, tourner l'appareil, l'éteindre, on ne sent pas ça, c'est qu'on dérive. Si on ne sent pas que c'est difficile de venir au culte le dimanche matin, c'est qu'on est dans notre lit. C'est qu'on dérive. Et on sait quand on dérive. On sait quand on dérive. Alors oui, ce texte nous montre que la vie entière, je crois, est comme un océan avec plein de courants qui sont prêts à nous amener à la dérive. Mais troisièmement, ce texte nous montre aussi que l'attachement diligent aux enseignements de l'Écriture est salutaire. Un attachement diligent aux enseignements de l'Écriture est salutaire. Verset 1, revient au verset 1, il dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur d'être éloignés loin d'elles. » Négliger, c'est ne pas s'attacher aux choses que nous avons entendues. et négliger entraîne inévitablement la dérive et on n'échappera pas, dit Dieu, si on dérive, si on néglige. Il dit ça à des gens qui ont entendu et entendu et entendu la parole de Dieu et qui professent le connaître. Il dit ça à vous et à moi, chers frères et sœurs. C'est à nous qu'il dit ça. Il dit, si nous négligeons, nous n'échapperons pas. Et notre seule bouée de sauvetage, c'est les plots. Vous avez déjà vu les plots là, où on vient amarrer le bateau, là, ici, sur le quai. C'est ça, vous vous attachez à ça. Vous vous attachez à la vérité de la parole. Et là, vous ne serez pas emporté. Le bateau ne sera pas emporté. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Être attaché fermement à l'enseignement de l'Écriture. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Nous devons d'autant plus, verset 1, nous attacher aux choses que nous avons entendues ». D'autres textes disent que nous devons d'autant plus prêter attention, prêter même une vive attention aux choses que nous avons entendues. Cela nous interpelle sur la manière avec laquelle nous écoutons. Combien de messages avons-nous déjà entendu, je reviens. Mais comment même écoutons-nous? J'ai trouvé un petit, dans un livre que je lisais sur la prédication, l'auteur parle d'un test qui a été fait en Allemagne. Et il dit qu'ils ont fait un test auprès de 25 cultes, à peu près 1250 personnes ont été interrogées. La seule question était celle-ci. De quoi le pasteur a-t-il parlé aujourd'hui? Et le sondage a donné ceci. 38% ne se souvenaient de rien. 31% avaient mal compris. 27% se rappelaient vaguement de quelques éléments. Et 4 seulement étaient capables de dire quel avait été le sujet de la prédication. 4%. C'est-à-dire que si on est dans une salle de 100 personnes, il y a 4 personnes qui sont capables de dire « c'était ça le sujet » dans ce sondage-là. C'est quoi le titre de mon message ce matin ? C'est terrible, n'est-ce pas? Déjà qu'on ne retient pas beaucoup naturellement ce que l'on entend. Mais comment être attaché lorsque l'on est aussi volatile, hein, lorsque l'on retient si peu de choses? Eh bien, je crois que premièrement, pour être attaché véritablement au Seigneur, il faut faire des efforts de compréhension. Il ne faut pas juste... Quand on ne fait pas d'efforts, on néglige. Quand on ne fait pas d'efforts pour comprendre, quand on ne fait pas d'efforts pour saisir, on est déjà en train de négliger. Et on risque la dérive. Au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, on va essayer de prendre quelques exemples. On n'aura pas le temps de voir beaucoup, mais quelques exemples au chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, au verset 11. L'apôtre dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lent à comprendre. » Mais vous savez que l'expression « lent à comprendre » ici, si vous lisez dans le texte, la version Darby, c'est écrit « Vous êtes devenus paresseux pour écouter. » Il dit que ce qui fait la difficulté d'un nouvel enseignement, ça n'est pas la complexité de l'enseignement, mais c'est votre paresse à écouter. Vous ne faites pas des efforts pour écouter. Vous ne faites pas des efforts pour comprendre. Vous ne faites pas des efforts pour saisir. Alors, la chose devient difficile. Et pour s'attacher aux choses que nous entendons, il faut faire des efforts de compréhension. Un peu comme faisaient les chrétiens de Béret. La Bible dit qu'ils recevaient avec empressement ce que l'apôtre Paul disait. Et puis, ils rentrent. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vérifier dans les Écritures si ce qu'on leur a dit est exact. C'est pas simplement pour dire « Ah, Paul s'est trompé », c'est pas ça. C'est pour approfondir les choses, pour les saisir probablement davantage. Est-ce que nous faisons ça avec ce que nous entendons? Paul disait à Timothée « Comprends ce que je dis, Timothée, car le Seigneur te donnera de l'intelligence sur toutes choses. » Il dit « Comprends ce que je dis, réfléchis, assieds-toi, pose les choses, calcule, travaille avec, il faut que tu le saisisses. » Parfois on dit « Oui, c'est difficile. » Non, il faut faire des efforts pour comprendre. Dieu est digne, l'Évangile est si grand qu'il est digne que nous fassions des efforts pour chercher à comprendre ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Alors, s'attacher, c'est faire des efforts de compréhension. Et ma question, c'est quel effort faisons-nous pour comprendre davantage? Parfois, il suffit juste de noter un peu dans vos cahiers et on revient avec. Quand on ne fait pas ça, on rentre chez soi. Même pas chez soi, on arrive à la porte, on arrive au bout de la rue, on a déjà oublié. On a déjà oublié, je peux vous dire ça, de par mon métier, je vois ça tout le temps. D'accord ? On n'écrit pas. Okay. L'étudiant dit, mais vous ne prenez pas le corrigé, monsieur, là, que j'ai mis au tableau ? Non, je regarde d'abord, parce que si j'écris en même temps, je ne comprends pas. Ok, d'accord, et quand ça ne sera pas au tableau, vous allez faire comment pour écrire ? Ah, il va prendre sur un copain, ok ? Et puis le lendemain, on arrive, bon, on n'a jamais vu ça, monsieur. Ah non, on n'a jamais vu ça. Hein ? Parce qu'on ne prend pas de notes, on n'écrit pas. On ne revient pas chez soi avec les choses pour les étudier. Faire des efforts de compréhension. Pour s'attacher aux choses que nous avons entendues, il faut aussi ajouter la foi à ce que nous avons entendu. Hébreux chapitre 4, verset 2. Verset 1 dit « Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Verset 2, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » On peut entendre la bonne nouvelle et elle ne nous sert à rien. Et peut-être que nous avons déjà entendu longtemps des choses, mais ça ne nous a pas servi. Parce que nous n'y avons pas ajouté la foi. Nous l'avons donc négligée et nous sommes à la dérive. Parce que nous n'avons pas ajouté la foi à ces choses. La négligence se manifeste ici par l'absence de foi dans les choses que nous avons entendues. Pour s'attacher aux choses que nous avons entendues, il faut aussi rechercher la communion des saints et s'exhorter mutuellement. Hébreux chapitre 3, regardez chapitre 3, verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Verset 7, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Et au verset 12, il dit « Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il parle à qui ? Il parle à des frères. Détourner du Dieu vivant, partir à la dérive. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cela ? Verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » S'entretenir mutuellement des choses de la parole de Dieu. Voilà ce que doivent faire les chrétiens s'ils veulent demeurer attachés aux paroles qu'ils ont entendues. C'est refaire vivre ces paroles entendues, reparler de ce que l'on a entendu, discuter avec, réfléchir avec, amener plus loin ce que l'on a entendu. Hébreux chapitre, même pensée, chapitre 10, verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et puis il ajoute « Et n'abandonnons pas notre assemblés comme c'est la coutume de quelques-uns. Voilà une dérive que l'on voit de plus en plus. L'abandon des réunions de l'assemblée. Il dit même que ça devient une coutume. Il semble que certains de cette église avaient commencé à déserter les rassemblements. Et l'auteur leur dit ici, vous devez veiller les uns sur les autres en vous rassemblant et en ne négligeant pas, certains textes disent, ne négligez pas les rassemblements de vous-même. Voilà. C'est une négligence qui entraîne une dérive. On dit, mais moi, je préfère rester chez moi car je sers mieux le Seigneur quand je suis tout seul. Au moins, je ne vois pas les autres. Et puis, moins je les vois, mieux je me porte. Les chrétiens sont trop hypocrites, ils sont curieux, ils veulent tout savoir, toujours en train de fouiller dans vos affaires. J'aime pas ça. Alors, je reste chez moi, je suis par Internet. Et puis, après tout, c'est la parole. Mais la Bible ne reconnaît pas la qualité de chrétien solitaire. Dieu nous a sauvés pour nous mettre dans un corps. Et vous ne pouvez pas manquer en lisant la Bible que Dieu veut que son peuple le loue en tant que peuple rassemblé. Et l'auteur montre, il ne montre pas simplement que le rassemblement est un lieu propice à la stimulation de l'amour, mais il dit que le fait de se rassembler est un élément encourageant et stimulant, ce qu'il dit ici. Le fait que les croyants voient le rassemblement, sont dans le rassemblement, ça les encourage quand ils voient les uns et les autres. Et donc participer à la réunion ou aux réunions, c'est donner un exemple qui stimulera à l'amour et aux bonnes œuvres. Quand je ne le fais pas, je néglige cela et je suis à la dérive parce que je n'obéis pas à la parole de Dieu qui me demande de me rassembler. Et je risque gros parce que de dérive en dérive, il dit il n'y a pas d'échappatoire. Pour ceux qui négligent. Notre siècle a développé toute sa technologie et on a favorisé l'individualisme, la multiplicité des écrans. On a plein d'écrans maintenant, ici, derrière, partout. On n'est pas contre, mais des fois, dans la vie personnelle, ça peut être un obstacle. Un écran peut être un écran. Un écran à la croissance spirituelle et on n'a qu'à cliquer sur Internet pour avoir profusion de sermons, n'est-ce pas? Chacun maintenant a son prédicateur préféré. J'ai celui-là, ouais, j'écoute celui-là, moi j'écoute celui-là. Et toi, le tien, c'est lequel? Comme m'a dit une sœur une fois pour me taquiner, elle m'a dit, c'est qui ton gourou sur Internet? Lequel tu écoutes le plus souvent? Et on est un petit peu comme cela, n'est-ce pas? On a des prédicateurs, en veux-tu, en voilà, sur YouTube. On choisit le site qu'on aime, l'orateur qu'on aime, le thème qu'on aime, le jour où on veut l'écouter et de la manière avec laquelle on veut l'écouter et on est satisfait. Mais la réalité est que nous avons besoin de rassemblements incarnés, si j'ose dire, d'accord, physique, comme Dieu le veut, que son peuple se rassemble pour que mutuellement ils puissent s'exhorter. Et donc, rester attaché à la parole que nous avons entendue, à l'enseignement, à l'évangile, c'est obéir à l'évangile et obéir dans le sens où nous devons aussi nous rassembler autant que possible. Autant que possible. Et puis, je terminais en disant aussi qu'être attaché à la parole que nous avons entendue, c'est traduire ces paroles en actes dans notre vie. Mettez en pratique. Il dit, la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne pas faire comme ceux dont Dieu parle à Ézéchiel, en Ézéchiel 33, où il dit, « Fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, et ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, « Venez, écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. » Et puis le prophète dit, ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple, Dieu dit cela, s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Cause toujours, prédicateur, tu m'intéresses. Il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Vous leur parlez de la vérité de la parole de Dieu, et vous leur dites, ta situation, elle n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu dit. Et des fois, ils vous disent, cause toujours. Ce n'est pas une affaire entre toi. Et moi, c'est une affaire entre moi et Dieu. Donc, moi, Dieu, c'est entre lui et moi. Et c'est ce que le prophète dit ici. Il dit, il t'écoute, mais il ne met pas en pratique. Et ta parole est une moquerie après dans leur bouche. Et leur cœur se livre à la cupidité. Il dit, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils sont sympathiques, hein. Ils ne sont pas contre le prédicateur, ils ne sont pas contre ce qu'il dit, ils aiment bien ses illustrations, il nous fait rire, il nous fait rigoler, c'est pas mal. Mais on n'a que faire de ce qui est enseigné. On n'est pas attaché à ce que nous avons entendu. On ne le met pas en pratique. On ne dit pas, oui, ça c'est quelque chose que je dois mettre en pratique dans ma vie. On dit, ah, j'ai bien aimé l'illustration qu'il a donnée. Tu as parlé de ta famille, c'était intéressant ça, hein, ce que tu as dit. Puis on est parti. Non, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la parole qui a été prêchée. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut faire donc pénétrer cet évangile dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Chers frères et sœurs, le salut, chers amis, le salut n'est pas simplement un acte de foi que j'accomplis à un moment donné. Ce n'est pas simplement le fait de me faire baptiser, de participer à la Sainte Cène. C'est un attachement ferme, solide à la personne de Christ et à la parole de Jésus-Christ. Êtes-vous en train de négliger les paroles que vous entendez? C'est la question pour chacun d'entre nous, que vous soyez jeune ou moins jeune. Vous venez depuis des années. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous entendons? C'est la question que nous pose la parole aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire dans quelques minutes que nous allons nous retrouver tout seuls ou avec les autres, avec ce que nous venons d'entendre, ce que nous venons de lire de la parole de Dieu? Dieu nous dit, si vous le négligez, il n'y a aucune échappatoire pour vous. Et il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui professent connaître Jésus-Christ. Il dit, si vous le négligez, il n'y a aucune échappatoire. Que vous dit-elle cette parole? Elle vous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'ai pas besoin de repentance. Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Elle vous dit, tu dois pardonner à ton frère cette offense. Vous dites, moi jamais. Après ce qu'il m'a fait, impossible. Négligence, dérive, pas d'échappatoire. Elle vous dit, tu dois progresser dans ta vie, te faire baptiser, suivre le Seigneur, t'engager. Bon, pas maintenant. Il vous dit d'aimer ton mari, d'aimer ta femme. Il dit non, moi, ça ne va plus. Il faut laisser tout ça tomber. Négligence, dérive, danger. Il ne s'agit pas de dire, je suis chrétien, j'ai été baptisé un jour, j'ai fait ceci. Ce n'est pas ça que nous dit le texte. Il nous dit que constamment, on doit se poser la question, est-ce que je néglige la parole de Dieu? Un véritable enfant de Dieu, il est en train de dire, ne néglige pas la parole de Dieu. Et s'il la néglige, il revient à la parole de Dieu. Mais il ne peut pas vivre constamment et bafouer impunément tout ce que Dieu lui dit à travers d'autres, à travers des prédicateurs, à travers la parole de Dieu. Et puis croire simplement qu'il est chrétien, il dit non, ça ne marche pas. Il dit attention, vous devez vous attacher à ce que vous avez entendu, obéir à ce que vous avez entendu continuellement, sinon vous êtes en danger de dériver. Et il n'y a pas d'échappatoire pour ceux qui dérivent. Hébreux 12, verset 25 dit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Et Dieu nous parle du haut des cieux aujourd'hui à travers sa parole. Chaque jour, nous l'entendons. Il nous parle du haut des cieux à travers sa parole. Chaque fois que quelqu'un nous parle honnêtement, bibliquement de la parole de Dieu ici, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Et quand nous nous détournons de cette parole, ce n'est pas d'un homme que nous détournons, c'est de Dieu que nous nous détournons. Et il dit, gardez-vous de cela. Gardez-vous de cela, je vous le dis. Vous êtes en danger mortel. Spirituellement. Et donc, est-ce que nous avons négligé la parole de Dieu jusque-là? Dieu, dans sa grâce, nous dit trois fois dans cet épître aux Hébreux, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, c'est ce qu'on va faire avec la parole aujourd'hui. Qui est crucial. Allons-nous la recevoir ou allons-nous la négliger encore? Puisse le Seigneur toucher nos cœurs et nous attirer à lui dans une véritable obéissance. Il nous appelle encore aujourd'hui, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Certes, vous avez négligé jusque-là, mais si vous sentez cela, c'est déjà que le Seigneur vous attire. Et il faut tenir, saisir cette main qu'il vous donne, demander pardon et venir dans la repentance. Et dire, oui Seigneur, je veux marcher fidèlement, attaché à toi. Aide-moi. Je ne veux pas négliger cette grâce. Je ne veux pas fouler au sang, au pied le sang, le Fils de Dieu. Je ne veux pas tenir pour profane le sang de Christ. Je ne veux pas mépriser l'Esprit de grâce. Aide-moi. Je t'en supplie. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous aider vraiment parce que nous reconnaissons que beaucoup de courants souvent nous emportent. Et nous nous cachons peut-être parfois derrière une profession que nous avons faite à un moment ou à un autre. Mais Seigneur, tu veux que notre vie se conjugue au présent. Tu veux que chaque jour, nous soyons trouvés attachés à toi. En nous-mêmes, nous n'avons pas cette force. Mais tu nous donnes ton esprit, tu nous donnes la force de demeurer attachés à ta parole, à ce que nous entendons. Seigneur, donne-nous de ne pas être négligents des choses que nous entendons. Seigneur, ouvre nos yeux, montre-nous nos fautes, montre-nous le chemin sur lequel nous marchons et qui ne te glorifie pas. Donne-nous des cœurs repentants. Montre-nous la situation de vie dans laquelle nous sommes, avec laquelle nous nous accoutumons et qui n'est qu'une dérive par rapport à ta parole. Ô Seigneur, détruis toute pensée et opinion mauvaise au-dedans de nous, pour que seule ta parole préside dans nos cœurs, dans nos pensées, dans les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Oui, Seigneur, donne-nous de rester attachés à toi, à ta parole, de peur d'être emportée loin d'elle. Et nous te remercions de ce que tu veux nous sauver, de ce que tu veux nous garder, de ce que tu nous donnes une assurance. Mais Seigneur, il n'y a pas d'assurance pour celui qui se laisse aller à la dérive. Ô Dieu, aide-nous à vivre pour toi, à prendre les engagements, chacun de notre côté, dans notre propre vie, à faire des choses, à abandonner d'autres, à mettre d'autres au point pour que nous puissions agir fidèlement et conformément à ta parole. Dirige-nous, nous t'en prions. Au nom de Christ. Amen.